bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas eu l'honneur de le faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai un double honneur. Celui tout d'abord d'inaugurer cette salle avec vous. Et le deuxième, c'est de parler de celui par qui cela a pu se faire ce matin. Alors avant de commencer ce message qui est la suite de nos études du livre de Jean, au chapitre 5, je repensais un petit peu au travail que nous avons fait hier. Et c'est vrai que là, on aurait pu ce matin faire un sujet sur le thème de l'Église, le corps de Christ. Juste pour vous témoigner de la façon dont ça s'est passé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Habituellement, lorsqu'on voit des travaux sur un chantier, on a toujours un maître d'œuvre, il y a des ordres qui se donnent avec plus ou moins de force, de conviction. Certaines fois, des reproches, des choses comme ça qui sont peu agréables pour les ouvriers et qui probablement leur donnent envie de quitter les lieux et ne le font pas parce que s'ils le font, ils n'auront pas la paye à la fin du mois. Mais là, vous dire que tout a été fait gratuitement, sur le temps de repos de chacun, sur les forces de chacun. Tout a été fait dans l'unité, dans l'amour, dans la fraternité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on n'a pas vraiment eu l'impression qu'il y avait un maître d'œuvre qui donnait les ordres, mais plutôt à l'image des fourmis. Chacun avait la tâche qui lui incombait, ça se faisait presque naturellement, et le résultat est merveilleux. Alors, ce matin, je ne vais pas vous parler des fourmis, je ne vais pas vous parler des corps, des membres du corps, mais du chef d'orchestre, du maître d'œuvre, de la tête du corps, de Jésus-Christ lui-même. Nous allons donc introduire ce moment par un bref rappel de l'étude qui a été faite dimanche dernier par Emmanuel. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ était arrivé dans un lieu qui s'appelait, qu'on nommait la piscine de Bethesda, et nous l'avons vu donc guérir un paralytique, certainement un homme qui ne pouvait se mouvoir, et qui désirait depuis de nombreuses années être guéri en se jetant dans ce bassin. Rappelez-vous, certains manuscrits disaient qu'un ange venait toucher l'eau de ce bassin, elle frémissait, et à ce moment-là, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri de ses maladies. Et cet homme-là, eh bien, ça faisait 38 ans qu'il était malade, et il n'avait jusqu'alors à chaque fois pu en aucune façon se mettre dans la piscine, puisque du fait de son handicap, il y avait toujours quelqu'un qui prenait sa place et qui arrivait avant lui. Voilà, le problème dans tout ça, ce n'était pas que Jésus le guérit. Le problème pour les Juifs de l'époque, c'était plutôt qu'il l'a fait le jour du sabbat. Nous allons donc lire ensemble le passage que nous allons étudier ce matin, qui est donc dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 16 à 30. Jean, chapitre 5, versets 16 à 30. Je vais vous le lire dans la version second 21, c'est une version actualisée. Et José, tu peux nous l'afficher dans celle que tu veux. Bon, voilà, très bien. Voilà, la seconde. Donc, je répète. Jésus, donc, avait été en quelque sorte rattrapé par les Juifs qui, suite au témoignage de cet homme qui avait été guéri par lui, donc a été reconnu comme étant entre guillemets le responsable de cette de cette infraction à la loi des Juifs, qui est, je vous le rappelle, qu'il est interdit de faire quelque œuvre que ce soit le jour du sabbat dans la loi de Moïse. Je lis. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. C'est un texte qui est très très riche de sens et qui nous présente en avant-première, je dirais, le ministère de Jésus sur cette terre. Ce que nous venons de lire se décompose en deux parties principales. La première, une sorte d'introduction très courte, décrit la situation lorsque Jésus se retrouve confronté aux Juifs menaçant de le tuer. La deuxième partie est un long monologue de Jésus qui présente son ministère terrestre et ainsi ne laisse plus aucun doute aux Juifs et à nous lecteurs sur sa position de fils de Dieu ainsi que sur son autorité suprême. Aussi, dans les trois premiers versets, nous voyons que Jésus, qui est en face de ses accusateurs, donc Jésus se retrouve en face de ses accusateurs, le texte nous dit qu'il cherchait à le tuer, eh bien, il ne cherche pas à s'échapper, Jésus, de quelque façon que ce soit. Bien au contraire, il connaît les intentions de ces Juifs légalistes. Il sait très bien qu'en parlant de Dieu comme étant son propre Père, et donc son égal, le texte nous le dit, il allait forcément passer pour un blasphémateur et risquer la mise à mort immédiate, certainement par la lapidation. De nombreuses personnes, pour des attitudes bien moindres, ont été massacrées de la sorte. C'était la loi de Moïse qui, pour l'époque, disait que toute personne blasphémée était mise à mort. Le nom de Dieu était une chose sacrée et personne ne devait y toucher. Personne ne devait parler de Dieu enfin. Autre chose, la religion juive, le judaïsme, est une religion fortement monothéiste. Et de dire que Dieu est son père signifie que, étant de la même essence, de la même nature que Dieu, cet homme-là serait aussi Dieu. Et là, pour les juifs de l'époque, qui, je le rappelle, étaient légalistes et aussi obtus, fermés, le cœur endurci, c'était inadmissible. Il était plus facile pour eux de tuer Jésus plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'il avait à leur dire. Ainsi, sachant tout cela, Jésus affiche clairement sa position. Et cet état de fait, le fait que Jésus, bien que sachant ce que ces hommes-là avaient dans le cœur, prouve encore que ce dernier connaissait son futur et qu'il est bien le Fils de Dieu de ce fait. Il savait pertinemment que son heure n'était pas encore venue. Il vivra d'ailleurs ce genre de situation à de bien nombreuses reprises. Si vous avez lu quelques passages dans le Nouveau Testament, vous avez certainement vu à plusieurs endroits que Jésus disait que son heure n'était pas encore venue à ses disciples. Donc il savait très bien ce qu'il attendait et que ce n'était pas encore le moment de mourir pour nos fautes. Il est à noter également qu'il dira dans un autre passage, dans Marc 2, 27, pardon, avant cela, lorsque Jésus s'adresse à ces juifs, comme je disais, il ne va pas par quatre chemins et on va dire qu'il enfonce le clou directement, sans mauvais jeu de mots. Il annonce la couleur, puisqu'en une seule phrase, Jésus va en quelque sorte leur dire clairement qu'il est effectivement le Fils de Dieu, puisqu'il dit qu'il travaille comme son Père travaille. Et une de ses actions, c'est la guérison des malades, et ce n'est pas des moindres. Et il donne aussi une indication du fait que son travail n'a pas de limite, n'a pas de durée dans le temps, puisqu'il est à l'œuvre même le jour du sabbat. Je disais donc qu'il est à noter également que dans un autre passage, Marc 2, 27, Jésus dira « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De plus, en tant que fils de Dieu, dans Luc 6, verset 5, il dira que Jésus est le maître du sabbat. Donc il a la liberté de faire ce qu'il veut des jours. Et pour lui, tous les jours sont égaux. Il n'y a pas de jour plus sacré qu'un autre. Je dirais même que pour lui, tous les jours sont sacrés. Enfin, dans la deuxième partie, Jésus réaffirme sa position de fils de Dieu. Il insiste même sur le fait qu'il jugera le monde à la fin des temps. Et ce, malgré la colère de plus en plus virulente de ses auditeurs. Imaginez un petit peu les Juifs qui écoutent ce que Jésus a à leur dire et qui entendent de ce dernier, qui se proclame fils de Dieu, qu'il se permet de travailler même le sabbat, le jour du sabbat, et en plus de ça, il se permet de dire que lui va juger le monde. Lui va juger les hommes, lui va juger chaque action de chacun et va juger ces juifs-là même qui le questionnent. Ça a dû faire un sacré remue-ménage. Imaginez-vous. Imaginez-vous un petit peu. Ça devait être bien bruyant, ça devait crier, peut-être insulter. Mais Jésus ne se laisse pas décontenancer, bien au contraire, il va continuer à leur parler, et d'une façon encore plus solennelle. Alors de quelle façon il va leur parler de façon plus solennelle? Eh bien en disant ceci, en commençant par « en vérité je vous le dis ». En vérité je vous le dis. Je ne pense pas dans ma vie d'homme, avoir une seule fois parlé comme ça à quelqu'un, en lui disant en vérité, je te le dis. Quand j'entends ces paroles, elles résonnent dans mon cœur, dans mon esprit, comme des paroles de quelqu'un qui est plus qu'un homme. Quelqu'un qui a quelque chose de plus que nous autres, qui a une autorité sur les choses de la vie. En vérité, je vous le dis, cette introduction implique donc un ton solennel qui, de ce fait, requiert l'attention toute particulière à ce qu'il va dire. En effet, il explique que ses actions sont calquées sur celles de son père, ce qui signifie qu'il ne fait pas les choses de sa propre initiative, tout seul, en freelance, mais plutôt en étroite collaboration avec ce dernier, avec Dieu le Créateur. En effet, nous dit-il, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Notez bien ça. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Je vais faire juste une transposition rapide. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Sachez-le, nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Si Jésus, notre modèle, le Fils de Dieu, le Fils unique, de la même essence de Dieu, ne pouvait pas faire les choses par lui-même, à combien plus forte raison nous, humains, terriens, fils adoptifs, nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Tout ce qu'il fait, il le fait selon la volonté du Père. Et rappelez-vous à Gethsémané, lorsque Jésus se retrouve donc là-bas, pris d'angoisse, avec cette révélation certaine du calvaire qu'il allait endurer, je dirais qu'il a vécu deux fois la mort, deux fois les souffrances, certainement la première fois à Gethsémané, où les textes nous disent qu'il transpirait à grosses gouttes, d'autres traductions nous disaient que ces gouttes ressemblaient à des grumeaux de sang, pour vous dire à quel point l'intensité de son angoisse était forte. Mon père, disait-il, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc là, Jésus nous dit clairement que tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est le Père qui le fait à travers lui. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas selon sa volonté propre, mais selon la volonté de son Père. L'origine de ses pensées, l'origine de ses actions, provient de son Père. Au verset 20 et 21, il dit une chose primordiale. Une chose primordiale. La première, je répète, Jésus nous dit, je n'agis que selon la volonté de mon Père. Et la deuxième, donc, il parle de l'amour qui existe entre le Père et son Fils. Cet amour qui crée leur unité et qui fait que le Père désire lui montrer toute chose. C'est le partage, c'est la mise en commun de tout un savoir, tout un savoir. Toute la puissance qui se traduira par des miracles sur terre, jusqu'à même la résurrection des morts. Imaginez un petit peu un père et son fils. Le père qui désire que son fils soit élevé au même rang que lui et lui enseigne tout son savoir. Tout son savoir. Et cette chose-là, elle est profonde, puissante, puisque l'intention qui en découle est mue, produite par un amour parfait. C'est par amour que Dieu le Père montre toutes ces choses à son Fils. C'est par amour que Dieu notre Père désire nous montrer toutes ces choses. Le but de ses paroles, le but de ses actions, le but de ses miracles à venir, c'est de créer l'étonnement chez tous les hommes. Pour quelle raison ? Pour quelle raison créer l'étonnement ? Eh bien, je crois que c'est afin de susciter la foi chez certains, chez ceux que Dieu prendra avec lui, et de pouvoir les sauver de la mort éternelle. La puissance de Dieu, ses miracles, ses paroles, c'est pour nous toucher, nous, simples humains, pour toucher notre cœur, pour parler à notre cœur et nous ouvrir les yeux, afin de nous sauver de la mort dans laquelle nous vivons. Dans les passages suivants, Jésus va crescendo dans ses attributions, puisqu'il annonce clairement que le jugement des humains, lui, a été remis par le Père. Autrement dit, c'est lui seul, qui jugera le monde. Ce qui montre bien la confiance de Dieu, le Père, à son égard, et qui accrédite sa divinité, puisque seul Dieu, je répète, seul Dieu a le pouvoir de juger, seul Dieu a le pouvoir de donner la vie éternelle, et donc par cette nouvelle position de Jésus, ce dernier est à même de recevoir les honneurs, les mêmes honneurs que son Père. Dieu le Père place son Fils au même rang que lui, afin que ce dernier soit reconnu comme Dieu, égal à lui-même. Pour ceux qui douteraient, Jésus les avertit en leur disant que tous ceux qui ne le reconnaîtront pas en tant que digne fils de Dieu déshonoreront par là même le Père. Donc là, c'est quand même un passage important, puisque là, Jésus dévoile une autre partie de son ministère, celui du juste juge, de celui qui rétribuera chacun selon ses œuvres. C'est lui qui jugera le monde, les actions cachées, secrètes de chacun. Tout sera dévoilé au grand jour, et Jésus, que les hommes ont crucifié, celui-là s'érigera en roi des rois, en seigneur des seigneurs et en juge de toute action. Le texte nous dit également, et là c'est important, je dirais même c'est crucial, que tous ceux qui ne reconnaîtront pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, eh bien, ils déshonorent ce dernier. Et si Jésus est déshonoré, son Père l'est aussi, puisque leur relation est étroitement liée. Et celui qui aime le Père aime Jésus, celui qui aime Jésus aime le Père, et également celui qui rejette Jésus rejette aussi le Père. Au verset 24, je vais le lire. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors là, on a une clé. Jésus nous donne une clé, je dirais même, Jésus nous donne la clé du salut. La clé du salut. Là encore, il utilise le début de phrase en vérité, pour marquer vraiment encore une fois l'attention de ceux qui l'écoutent. Et on en voit la raison, le motif est de la plus haute importance. C'est le moyen de posséder la vie éternelle. Jésus donne ici le moyen de posséder la vie éternelle. Comment faire ? Il énonce clairement que celui qui écoute ses paroles, je rajouterai celui qui croit en ses paroles, n'est pas juste écouter d'une oreille et puis... Non. Quand Jésus dit « celui qui écoute mes paroles », c'est écouter avec son cœur. Et si on écoute les paroles de Jésus avec son cœur, on ne peut que croire en ses paroles. Donc celui qui écoute, qui croit ses paroles et qui croit en celui qui l'a envoyé, en Dieu le Père, ce qui signifie qu'il faut croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, il a la vie éternelle. Notez bien qu'il dit « il a la vie éternelle », il ne dit pas « il aura la vie éternelle ». Mais « il a », c'est le temps présent. Celui qui croit ces choses-là, à l'instant même, il a, il reçoit la vie éternelle. Et il n'est pas non plus soumis au jugement et à la condamnation qui va avec. Il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que de mort spirituellement qu'il était, il revit. C'est la nouvelle naissance pour une vie éternelle qui commence dès à présent et non pas après la mort physique. Donc là, Jésus dit clairement, il dit clairement que l'humanité, que chaque homme naît mort. Quand on sort du ventre de notre maman, nous sommes des morts-nés. C'est choquant ? Ça vous choque de vous dire ça ? Imaginez un petit peu la maman qui donne naissance à un bébé et elle voit que ce dernier est mort. Imaginez la souffrance qu'elle peut endurer. Vous imaginez ça ? Vous attendez, bon, on le sait très bien parce qu'on attend un bébé en septembre. C'est une pensée qui, je crois, qui me ferait hérisser le poil que d'imaginer ça. Tellement c'est horrible. On attend la vie. On a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, donné la vie. Évidemment, ce n'est pas nous qui donnons la vie, on sait bien que c'est Dieu. Mais on a agi de telle sorte que l'on voulait cet enfant, on voulait lui donner la vie, créer un être nouveau. Et imaginez la souffrance, la déception. Terrible, lorsqu'au moment d'entendre le cri de vie, un enfant sort mort, sans vie. Toute joie s'effondre. Plus de bonheur, la tristesse, la souffrance. Eh bien, c'est un peu la même chose avec notre Dieu. Dieu nous a créés à l'origine vivants. Adam et Ève étaient vivants. Ils étaient bien vivants spirituellement. Pour Dieu, la vie, la vraie vie, ce n'est pas la vie physique, mais bien la vie spirituelle. Quand il a créé Adam et Ève, ce n'étaient pas des morts-nés. Ils étaient vivants. Malheureusement, le péché est entré chez nous, le péché est entré dans l'homme et a fait que toutes les nouvelles naissances sont des naissances d'enfants morts. Spirituellement. Mais, je dirais, la bonne nouvelle est la suivante. C'est que Jésus a été envoyé pour ressusciter ces morts, pour redonner la vie à ces enfants morts-nés que nous sommes, et que nous étions, pardon. Et Jésus est là, il le dit. De mort que vous étiez, vous revenez à la vie. Je vous donne cette vie que vous aviez plus. Je vous donne cette vie que vous aviez perdue à cause du péché. Et cette vie, cette nouvelle vie commence dès à présent, nous dit-il, à partir du moment où nous prenons conscience de notre péché, à partir du moment où nous prenons conscience de notre état de mort spirituelle, à partir du moment où nous disons et nous acceptons que Jésus est venu y apporter ce fardeau, à partir du moment où nous croyons qu'il a le pouvoir de nous donner cette vie, nous la recevons. Nous recevons en cadeau cette vie. Jésus insiste à nouveau sur ce sujet, dans le verset qui suit, en insistant sur un fait particulier, c'est celui de sa parole ou de ses paroles. Ce sont ses paroles qui donnent la vie. ce sont ses paroles qui donnent la vie. Ça me fait penser à quelque chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ce sont les paroles de Jésus qui donnent la vie. C'est pas une action, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose de visible, tangible. Non, ce sont des paroles. Mais quelles paroles ? Des paroles de vie. Jésus nous dit également qu'il a, comme le Père, la vie en lui-même. Et plus loin, dans Jean 10, verset 17, Jésus nous dit « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus. Et Jésus seul. Enfin, dans les quatre derniers versets, Jésus parle du jugement dernier. Il dit qu'en tant que fils de l'homme, Dieu lui a donné l'autorité de juger l'humanité. En effet, du fait de son caractère humain, il est parfaitement à même de juger les hommes, puisqu'il a vécu une vie identique à la nôtre, avec les mêmes tentations, les mêmes souffrances, les mêmes désirs, etc., etc. Autrement dit, il était vraiment homme et vraiment Dieu à la fois. Mais du fait qu'il a traversé toutes ces choses, il a pu toucher du doigt ce que nous endurons sur terre. Et de ce fait, il n'y a pas meilleure position pour juger que celui qui a vécu les mêmes choses, que celui qui est en face de lui. Non seulement il a le jugement juste de Dieu, puisque je vous rappelle que ce qu'il fait, il ne le fait pas par lui-même, mais parce que le Père lui montre. Mais en plus de ça, il partage cette expérience, je dirais pas ordinaire, mais extraordinaire, d'avoir vécu notre vie sur cette terre et de ce fait, tellement bien nous comprendre. Tellement bien nous comprendre. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Là, Jésus nous parle de la résurrection finale et du jugement dernier. Ceux qui auront accepté l'appel de Jésus vivront éternellement. Les autres seront jugés et condamnés à la mort éternelle. En d'autres mots, la mort éternelle, les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notons que le passage qui dit « ceux qui auront fait le bien » ne signifie en fait « ceux qui auront écouté et pratiqué les paroles du Christ ». Il ne s'agit pas seulement de faire le bien pour être sauvé, vous le savez bien. Verset 30 « Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est quasiment une paraphrase du verset 19 que nous avons lu précédemment, où Jésus nous répète que tout ce qu'il fait est mû par la volonté de son Père, et je crois que pour nous chrétiens, il devrait en être de même. Malheureusement, nous en sommes aussi souvent très très loin, mais si au moins nous avons ce désir, celui de chercher à faire la volonté de notre Dieu, nous ne pouvons que progresser dans la sanctification, et nous pourrons alors voir Dieu agir dans nos vies et dans celles de notre entourage. Petit aparté, ça fait de nombreuses années que je témoigne auprès de mes amis d'enfance de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ça fait de nombreuses années que je reçois des moqueries. Bon, c'est pas méchant, hein, ça reste mes amis, mais je sais très bien qu'entre eux, ils se moquent un petit peu de moi, puisque j'ai des retours et des uns et des autres. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que même s'ils se moquent de ma foi, qui leur paraît absurde, selon leurs mots, on ne comprend pas qu'un gars intelligent comme toi puisse croire à des fables pareilles. Ce n'est pas moi qui le dis, et je ne me trouve pas intelligent. Mais ce sont leurs paroles, quand même. Eh bien, grâce à Dieu, cette foi était inébranlable. Grâce à Dieu, cette foi s'est traduite par les actes. Et merci Seigneur, j'ai appris hier que l'un d'entre eux avait donné sa vie à Jésus. Et le changement qui va derrière a déjà commencé. Gloire à Dieu. Juste pour dire, je ne fais pas ma volonté, mais celle de mon Père. Du moins, c'est le désir de mon cœur et je m'y attache le plus possible. Et les fruits, ben, c'est lui qui les donne. C'est encourageant, hein. Je peux vous dire que c'est encourageant parce que si vous connaissez le loustic, je peux vous dire que j'ai même douté de ce qu'il m'a dit. J'ai dû vraiment le questionner en profondeur pour me dire, bon, ben là, effectivement, il s'est passé quelque chose. Et oui, Dieu agit dans nos vies, dans la vie de notre entourage. Et c'est cette puissance qui se reflète dans nos vies. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte ? Ah, tellement de choses, n'est-ce pas ? Texte si profond de sens, si clair. Comment pouvoir encore douter de la divinité du Christ après avoir lu cela ? Comment en douter ? Si jamais un jour dans votre vie chrétienne, vous avez des doutes, eh bien je vous encourage à relire ce passage parce que là, c'est très très clair. Je me demande même comment les témoins de Jéhovah peuvent occulter de tels passages. Comment douter de l'amour du Père pour son Fils et pour nous, ses enfants de surcroît ? Comment ne pas se soumettre à son autorité divine ? Comment ne pas être reconnaissant envers lui, voyant qui il est réellement et ce par quoi il est passé pour nous obtenir le pardon de nos fautes, pour nous octroyer la vie éternelle, pour nous faire passer de la mort à la vie ? Je vous propose de passer un petit temps de méditation, chacun à sa place. J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à répondre à son appel. Écoutez ses paroles, entendez ses paroles, saisissez le salut qu'il vous offre, le pardon de vos péchés. Prenez par la foi cette vie nouvelle qu'il vous donne, une vie riche en bonté et en amour, une vie pure, une vie à l'image de la sainteté de Dieu. Et pour tous ceux qui lui appartiennent, replaçons-nous au pied de la croix, agenouillons-nous en esprit devant notre roi. Louons-le de son amour pour nous, louons-le parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Il a fait de nous ses co-héritiers. Nous sommes devenus enfants du grand roi, nous sommes devenus enfants du Dieu créateur de toutes choses. Passons un temps de réflexion, de prière, intérieure ou à voix haute. Plaçons-nous devant le cœur de Dieu et disons-lui notre joie de lui appartenir, notre reconnaissance éternelle. Amen.